Media Diva. Bienvenue dans la seconde partie de notre débat sur l'avenir de l'AES, une coproduction de Studio Tamani au Mali, Studio Yafo au Burkina Faso et Studio Kalangou au Niger. Cette seconde partie est consacrée au public qui pourra interagir. Toujours à la présentation, vous avez Sekou Gadjigo, Aimé Roland Ouédraogo de Studio Yafa du Burkina Faso. Et avec le public, Rafika Attayer de Studio Tamani. Bonjour Rafika.
Studio Kalangou.
De Studio Kalangou. Désolé. Bonjour Rafika.
Bonjour Sekou. Bonjour Aimé.
Bonjour.
Alors pour les réponses au public, nous avons les mêmes invités. Hein. Célia Dalmeida, elle est de l'ONG NIMDE, ça c'est l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Il y a aussi Abdul Wahab Djakité de l'Association des consommateurs du Mali, Askouma, et Cheikh Omar Doumbia, il est analyste politique. Bonjour Rafika, vous avez la parole maintenant.
Alors, le point à l'ordre du jour était l'avenir de l'AES. Vous avez bien suivi le débat. Alors, vous êtes prêts pour interagir? Parce que là, la parole, elle est à vous. Nous allons procéder comme suite, c'est par des séries de 5 questions. Vous allez soit nous poser des questions ou nous donner des témoignages. Et mais avant, vous devez d'abord vous présenter et préciser à l'endroit de qui votre question elle est orientée. Vous avez bien compris? Vous avez bien suivi le débat?
Oui.
On peut aller? D'accord. Qui en premier? Qui veut poser la question en premier?
Ma question, c'est... Merci déjà pour la qualité du débat. Merci pour la qualité des échanges. Et aussi pour l'effort de la Fondation Hirondelle, j'allais dire Studio Tamani, de réunir Studio Kalangou, mais aussi Studio Yafa ici à Bamako.
L'AES en quelque sorte.
Exactement. Donc du coup, ma question c'est, est-ce que dans le procès qu'on fait à la CEDEAO, on ne confond pas aussi nos propres responsabilités? C'est-à-dire que j'ai oublié le nom du tonton, donc M. Doumbia, M. Djakité parlait de l'échec de la CEDEAO, ou bien en tout cas de l'impuissance de la CEDEAO face aux crises internes dans les pays. Comment, par exemple, les pays qui n'arrivent pas eux-mêmes à résoudre certaines crises qu'ils se posent, comment on peut forcément compter sur la CEDEAO pour résoudre cela aussi à notre place, quoi? Des fois, est-ce qu'on ne fait pas ce procès à la CEDEAO d'échouer là où nous aussi nous avons échoué, en fait? Parce que c'est compliqué de dire que la CEDEAO n'a pas pu faire ça, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas pu faire ça. Donc, du coup, est-ce que ce n'est pas un mauvais procès à la CEDEAO qu'on fait? Ça, c'est de un. Et de deux, monsieur Doumbia, cette fois-ci, est-ce que l'AES n'est pas en quelque sorte une alliance de circonstances? Parce qu'on voit qu'il y a vraiment une similitude entre les trois pays où on a dirigeants qui sont venus par coup d'État, qui sont des militaires. Est-ce que l'alliance même ne se fonde pas déjà sur ces similitudes-là entre ces personnes-là plutôt que dans la nécessité forcément de créer une alliance qui essaie de supplanter la CEDEAO? Voici ma question. Merci beaucoup.
Merci de partager vos préoccupations avec nous. Une deuxième personne, s'il vous plaît. Oui, monsieur.
Bien, bonjour. Donc, merci.
Je rappelle que c'est un public majoritairement jeune et dominé par les hommes. Allez-y, posez votre question.
Moi, je m'appelle Adama Djigiba. Je suis correspondant de Studio Tamani à Badiangara. Ma question, la voilà. Donc, moi, je voudrais savoir, on parle de création de monnaie par l'AES, alors qu'on sait que la CEDEAO, c'est 15 ou 16 pays. Le Mali, le Burkina et le Niger faisaient partie de la CEDEAO. Ils font toujours partie de la CEDEAO. Les 15 ou 16 pays de la CEDEAO n'ont pas pu créer une monnaie. Et le Mali et le Burkina, le Niger sont donc considérés comme les pays moyens même de la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que ces trois pays-là peuvent créer une monnaie dont l'AES qui compose ces trois pays-là ambitionne à ce que vraiment il y ait une monnaie commune. Est-ce que on peut créer une monnaie commune avec ces trois pays du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina? C'est ça ma question. Merci.
Sékou Abdoul Kader Traoré, correspondant de Studio Tamani à Kemasina. Voilà ma préoccupation. Qu'est-ce qui a amené la création de l'AES? Voilà, c'est ma question. Et encore, il y a la CEDEAO, il y a l'AES. Quelle peut être la jonction entre ces deux organisations? Voilà, je vous remercie.
Ce qui fait les cinq questions de cette première session, Sékou, la parole est à vous.
Merci, Rafika. Nous allons donner la parole à Wahab Diakité, à qui la première question a été adressée. Georges Attino demande si on ne fait pas un mauvais procès à la CEDEAO.
Bon, merci bien. Je pense bien que M. Georges ne m'a pas compris. Parce que moi, dans mes analyses, je ne m'en prends pas ni à la chose, ni à la France, ni aux autres pays. Mais j'ai toujours posé la question, quelle est notre propre responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui chez nous? J'ai juste dit que nos dirigeants ont profité du protocole additionnel pour faire tout ce qu'ils veulent chez nous, en se disant juste, le protocole additionnel est là, peut en fait nous protéger. C'est de cela que je parle. Sinon, je n'ai pas parlé que c'est la faute de la CEDEAO. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà.
Il a aussi savoir que est-ce que la responsabilité des populations n'est pas occultée dans l'échec même du...
Non, en fait, c'est quoi? Quand nous prenons nos textes là, tout est calqué sur les autres pays, en oubliant réellement nos propres textes, c'est-à-dire quoi, nos valeurs socio-culturelles. C'est ça le problème. Vous voyez, au Mali, on dit que le Mali, c'est le berceau des bons textes. Mais généralement, quand vous prenez n'importe quel texte malien, au bout de 2 ans, 3 ans, on demande une lecture. Ça veut dire que réellement, les textes ne sont pas élaborés conformément à nos valeurs. C'est ça d'abord le problème. Okay.
Merci bien. Il y a deuxième question.
Il y a une autre question de Georges Attino qui est adressée à M. Doumbia, l'analyste politique. Il s'interroge si l'alliance des États du Sahel n'est pas une alliance de circonstances.
Tout le monde le sait. Hein. Nous voyons clair, mais nous refusons de... En fait, c'est devenu une opportunité politique. L'AES va être une opportunité politique qui va être instrumentalisée à beaucoup de fins. Et au final, ça va être une spirale qui va s'arrêter. Malheureusement, les gens se plaisent aujourd'hui dans cette idée. Mais elle n'est pas vivable. Les gens ont essayé. Pour expliquer tout ça, il faut faire vraiment un cours dessus. Mais il y avait une première alliance de type qui est née entre Moussa Traoré, Muammar Kadhafi et Thomas Sankara. Il y avait une première qui ont tenté. À la suite, ils ont fini par éjecter Sankara et l'ont remplacé par Nelson Mandela. Mais qui avait pour but à peu près les mêmes objectifs militaires. Parce que c'est encore des chefs militaires qui pensent de cette façon. C'était d'empêcher toute présence militaire étrangère sur le sol africain. C'est ce qui a même motivé Moussa Traoré en 93, en 92, refuser entièrement la présence de AFRICOM à Ménaka, le commandement des forces de l'OTAN pour Ménaka. Rien de ceci est nouveau, en fait. C'est habituel et c'est un mécanisme connu que les chefs d'État ont utilisé à maintes reprises et qui, à chaque fois, donne autant d'espoir et qui finit toujours de la même façon et nous ne voulons pas arrêter. Maintenant, chaque génération pense que c'est à elle de réussir cela. Mais moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, si en 60 ans, nous utilisons les mêmes mécanismes et que nous n'avons pas le résultat que nous voulons, il faut peut-être revoir la méthodologie. Et ce que nous faisons, ce n'est pas de revoir la méthodologie, c'est de revoir les acteurs. L'AES, quand on regarde la charte de l'AES qui est sortie des concertations de Bamako et que vous comparez aux textes fondamentaux de la CEDEAO, il n'y a aucune différence. Aucune. C'est juste phrasé de différentes manières, mais dans le fond, ça donne la même chose. Donc, il faut à un moment donné qu'on arrête ça. que chaque acteur arrête de penser que bon, j'ai plus de légitimité ou j'ai plus de sens que ceux qui m'ont précédé, et que l'on regarde réellement le fonctionnement de ces pays-là et que l'on puisse y participer.
Mais Doumbia, est-ce que toutes les organisations ne se créent pas sur la base des défis du moment ? Peut-être que pour les États de l'AES, les défis du moment qui sont l'insécurité, le terrorisme dans la région, leur imposent de créer cette organisation. Peut-être que ça a été le cas pour la CEDEAO.
Les organisations internationales, très généralement, ne se créent pas sur la base des défis du moment, se créent sur la base d'anticiper la répétition des défis du moment. Ça, c'est le but même de la légalité. C'est de l'anticipation. Quand on regarde la charte de Kourganfoua, bien avant tout ça, c'est anticiper. C'est de dire comment évitons un autre Smauro. Comment évitons à ce que le Mandé ne tombe dans les mêmes difficultés. Donc c'est de l'anticipation pour de vrai. On tire les leçons du passé et on essaye d'anticiper. Et aujourd'hui, la CEDEAO avait pour motif réel de création d'anticiper sur les coups d'État. C'est pourquoi ça a été pensé par les chefs militaires qui étaient au pouvoir. Leur objectif premier, c'était d'empêcher, comme on le dit aujourd'hui, que quelqu'un vienne d'ailleurs déstabiliser les régimes qui étaient en cours. Et quelque part, ça a réussi cela. Mais la CEDEAO a dû évoluer. Il y a une évolution nécessaire parce qu'il y a l'objectif politique et il y a l'objectif économique qui va naître après. Mais l'objectif politique, c'est ça, c'est d'assurer une certaine stabilité. Et là où ça complète ce qui est dit par rapport au procès de la CEDEAO, aujourd'hui, comme je l'ai dit, hein, et je pense que quelqu'un d'autre l'a dit dans les interventions, pour que l'AES survive, il faut qu'elle puisse engloutir la CEDEAO. Ce qui va être très difficile parce que les économies les plus fortes de cette zone sont de l'autre côté. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ceux qui ont le plus de tonus sont de l'autre côté. Et si on veut faire grand, on construit une organisation forte avec des États forts. Et les États qui sont aujourd'hui en difficulté doivent travailler à se réparer pour ensuite donner. Mais c'est pas ce que nous faisons.
Bien que ces pays-là ne soient pas des économies importantes, est-ce que la CEDEAO peut se passer de ces pays aussi? Est-ce que ça n'aura pas d'impact sur...
Est-ce que la CEDEAO peut s'en passer? Aujourd'hui, avec le Nigeria qui lutte pour pouvoir intégrer la zone monétaire, avec le Ghana qui est en difficulté, avec le Chili qui veut une nouvelle zone monétaire avec la CEDEAO, si le marché nigérien intègre la CEDEAO et que nous restons à côté, la CEDEAO ne va pas réfléchir à deux fois à nous. Ça fait 300 millions de consommateurs de l'autre côté, plus le consommateur ghanéen. Si, tout ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est obtenir un taux directeur beaucoup plus flexible avec le CFA. S'ils ont ça, ils vont quitter leur monnaie pour rejoindre la zone monétaire.
Mais est-ce que ce que le Mali rapporte au Sénégal, un pays comme le Sénégal, est-ce que le Sénégal gagne ça avec la CEDEAO? Juste une question de compréhension.
Ce qui se passe est très malin. Aujourd'hui, quand le Mali sort de l'équation, qu'est-ce qui se passe? Tous les investissements dirigés vers le Mali sont redirigés vers la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Donc, en principe, il y a une perte. Mais quand on calcule le gain de l'autre côté aussi, on se rend compte que c'est jouable. Et c'est sur ça qu'ils ont tablé depuis le début de ça. Et quand ils l'ont compris, ils ont arrêté de parler. Au départ, ils étaient en train de dire non, il faut résoudre la problématique, il faut la résoudre parce que tout le monde pensait qu'il y aura suffisamment de pertes. Mais quand ils se sont rendus compte que tous les investissements qui étaient prévus de ce côté-ci sont en train d'aller de leur côté, tout le monde s'est tué. Donc aujourd'hui, c'est ça. Quel est le nombre d'entrepreneurs, d'entreprises maliennes qui sont en train de se délocaliser là-bas aujourd'hui? Quel est le nombre de multinationales qui sont en train de dire bon, nous allons investir de l'autre côté parce qu'il n'y a pas de stabilité de ce côté-ci? Ça fait beaucoup plus d'opportunités pour eux. Et c'est à prendre en compte.
D'accord, Djigiba, Adama Djigiba, sinon aussi Madame Dalmida veut réagir.
Je voulais réagir et je pense que le mot-clé est celui qui a été dit tout à l'heure, c'est la stabilité. Aucun peuple ne peut se développer, ne peut travailler au bien-être de sa population s'il n'est stable. Et cette stabilité-là n'est pas que sécuritaire. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres éléments. Mon doyen de l'ASCOMA ne dira pas le contraire. Quand les associations de consommateurs descendent dans la rue avec force, ça peut déstabiliser un pouvoir. Ça s'est vu au Soudan avec la hausse du prix du pain. Donc, je pense que il est essentiel, et c'est en ce sens-là que la question du dialogue politique est vraiment une notion qui est indispensable, et que les populations aussi se saisissent de leur destin, en comprenant, en cherchant à comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux, quels sont les défis. Moi, j'apprends quelque chose à travers l'analyse de Monsieur Doumbia tout à l'heure, qui nous dit mais que certains pays ont arrêté de parler parce que finalement tous les investissements vont vers eux. Et qui perd? C'est nous qui perdons. C'est des emplois en moins chez nous. C'est des ressources en moins chez nous. Parce que nous n'arrivons pas à résoudre sur du long terme nos problèmes. Les crises sont cycliques. Et comment arriver à ce que ces crises-là ne se répètent plus? Il est indispensable d'avoir une population qui est informée, une population qui se saisit elle-même de son destin, c'est-à-dire qui demande la transparence, la redevabilité, qui ne se laisse pas corrompre, parce que quand il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur, et qui réellement joue aussi sa partition au lieu de tout le temps se dire « c'est nos dirigeants ». Nos dirigeants viennent de nos familles, ils viennent de nos maisons, ils viennent de nos communautés. Et si en tant qu'individu, en tant que Malien, nous acceptons cette responsabilité qui est la nôtre, nous allons faire une inversion de valeur qui va nous permettre d'aller vers la stabilité. La question de la justice, elle est extrêmement importante. On n'en parle pas beaucoup, mais on ne peut pas bâtir une nation durable, une nation stable, sans justice. Parce que le désir de vengeance entraîne la violence. Et c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Donc, il est indispensable que les citoyens, qu'ils soient de l'AES, qu'ils soient de la CEDEAO, qu'ils soient de l'Union africaine, s'asseyent et discutent, qu'ils soient dirigeants ou citoyens lambda comme vous et moi, qu'ils redéfinissent quelles sont les valeurs sur lesquelles ils veulent construire leur nation et que ces valeurs-là soient vraiment la boussole sur la base de laquelle et la sécurité et la justice et l'économie et l'éducation sont bâties. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Hein. Il ne faut pas qu'on s'attende à avoir un changement de tendance dans un an, deux ans. C'est un travail de fond qu'il faut faire parce que le problème est très profond et il faut qu'on s'asseye pour parler, et que quel que soit le cadre que nous choisissons, moi, je pense que finalement, ces regroupements ne sont que des cadres, ne sont que des boîtes dans lesquelles nous mettons pour faire des choses. Et ce n'est pas la boîte le problème, c'est ce que nous y faisons qui est le problème. Et il est indispensable que nous en discutions de manière sincère, de manière franche, et que les vrais problèmes soient posés sur la table pour trouver des solutions durables.
Et on a... La création de l'AES, là, c'est un processus. Maintenant, c'est un leurre pour tout le monde en disant que ouais, l'AES sera créé et demain, tous les problèmes seront résolus. Non. Ça demande, c'est un processus dans la transformation même de la vision des communautés par rapport à leur propre destin. Voilà.
Merci pour cet apport.
Le danger, c'est que c'est un processus enclenché en période de transition et que les transitions ne sont pas faites naturellement pour durer. Donc, si c'est un processus de longue durée, qu'est-ce qu'on fait? On dure dans la transition ou le processus va changer d'acteur plus tard? Et c'est ça le risque.
Et en fait, c'est quoi? Il faut réellement que les populations prennent en main leur propre destin. C'est-à-dire aujourd'hui, la création de l'AES là, ne sera plus liée à la présence ni de Assimi, ni du président Ibe, ni du président nigérien. C'est ça d'abord le problème. Parce que qu'est-ce que nous avons fait pendant toutes ces années-là? Si nous prenons par exemple le cas spécifique de l'EDM, nous avons été la seule association qui a de tout temps décrié. Mais aujourd'hui, nous sommes allés droit au mur. Nous sommes au mur maintenant. Est-ce que la population même ne s'est pas appropriée du problème de l'EDM? Est-ce que dorénavant, on va laisser l'EDM dans la mauvaise gestion qu'elle a connue dans le temps? C'est ça d'abord. C'est pourquoi là, je suis d'accord avec Almeida quand elle parlait de l'appropriation des communautés de leur propre destin. Sinon, je suis parfaitement d'accord avec vous. Si nous voulons faire cette transformation-là, tant que nous-mêmes, nous n'allons pas prendre notre destin en main, ce n'est pas possible. Et l'AES, moi, je crois dur comme fer, n'est pas lié ni à Assimi, ni à Ibé.
Moi bon, surtout, c'est je juste, pense... Juste un rappel, l'EDM, c'est l'énergie du Mali actuellement, qui traverse une crise.
Prendre notre destin en main a été suffisamment mal compris par beaucoup de gens. Les gens ont compris prendre notre destin en main comme militer contre ceux qui sont en train de diriger.
Non.
C'est comme ça que ça a été compris par beaucoup de gens. Et à chaque fois que l'on exerce ça, ça crée d'autres problèmes. À chaque fois que l'on s'attaque aux dirigeants, on crée plus de problèmes. Aujourd'hui, la solution, c'est local. En tout cas, pour le Mali. Le Burkina, je ne saurais dire. Le Niger, je ne saurais dire. Pour le Mali, la solution est locale. Vous allez trouver un Malien qui vous parle de politique et d'économie malienne avec passion. Demandez-lui comment s'appelle le maire de sa commune, il n'a aucune idée. Comment s'appelle le député, il n'a aucune idée. Donc tout le monde est concentré sur le fait que tout ce qui nous arrive ou tout ce qui se passe relève du gouvernement seul.
Vous trouvez qu'ils sont sous-informés ?
Mais absolument. Absolument. Ce qui est en train de se passer au Mali, je l'ai écrit de ma main avec précision. Ça va se passer comme ça. Vous allez voir ça. Je peux vous montrer un document qui date de 2 ans qui prédit que l'AS va naître. Et que quand ça va naître, les problématiques qui vont s'en suivre, les possibilités. Et on était en train d'expliquer aux gens, attention, ne prenez pas ces routes-là, ça va nous conduire à ces endroits-là. Mais malheureusement, c'est les politiques eux-mêmes qui instrumentalisent la colère de l'État. Quant aux dirigeants qui essaient de se protéger contre la population, c'est naturel. Même le chef de famille, vous mettez souvent des règles qui font que ceux qui sont sous votre leadership ne puissent pas s'en prendre à vous. On dit qu'en démocratie ou dans la République, l'élite a 4 fonctions principales. La première, c'est protéger les populations contre les menaces extérieures. La seconde, c'est protéger les populations contre eux-mêmes. Parce que parfois, le peuple, c'est pourquoi on a les forces de l'ordre, le peuple parfois se désoriente et lutte contre ses propres intérêts. La troisième, c'est de protéger le dirigeant contre le peuple. Et la dernière, c'est de protéger le peuple contre le dirigeant. Donc, toutes ces choses font partie du travail que l'exécutif doit assurer. Mais celui qui ne comprend pas ça, quand il sent que le dirigeant est en train de se protéger, il pense au pire. Mais même tout de suite, les dirigeants de l'AS se protègent, et au maximum. Moi, je peux vous dire que Assimi Goïta, c'est le président le plus sécur que le Mali ait connu. Le dispositif sécuritaire est extraordinaire. Ils savent que c'est risquer leur fonction, c'est risquer leur métier et qu'il faut prendre des mesures contre les voix dissonantes, contre les possibles menaces qui sont de type armé. Ils prennent des mesures. Et ça, on ne peut pas simplement dire que les dirigeants qui sont démocratiques seuls sont les seuls à faire ça. Ça fait partie du métier.
Je voudrais réagir.
Oui,
je voudrais réagir, revenir sur la notion du destin, prendre en main son destin. Le prendre en main son destin n'est pas forcément prendre la rue ou investir les réseaux sociaux, etc. Prendre en main son destin est une notion, pour moi, éminemment démocratique. On est dans une ère, ça fait 30 ans que nos États sont passés à l'ère dite démocratique, avec une non-appropriation totale de ce que ça veut dire. La démocratie. Nos populations n'ont pas une vision claire de quelle est leur responsabilité, de quelle est la responsabilité du gouvernant et comment ce jeu de pouvoir et de contre-pouvoir doit se jouer. Au NIMD, nous formons actuellement, dans le cadre des écoles politiques et démocratiques, des jeunes filles et des jeunes hommes maliens, des jeunes femmes et des jeunes hommes maliens, qui sont issus de la classe politique, qui sont issus de la société civile. Tout simplement parce que nous sommes convaincus que c'est en ayant une meilleure compréhension des enjeux, des défis, du rôle de soi, mais aussi du rôle de l'État, du gouvernant et des entités extérieures, parce qu'on parle de géopolitique, on parle de panafricanisme, etc. Ce n'est qu'en ayant cette vision claire que le peuple peut décider. On ne peut pas cacher une partie de l'information à quelqu'un et lui dire de faire des choix.
Justement, madame, c'est pas pour vous interrompre. La formation, tout le monde ne peut pas avoir accès à cette formation. Actuellement, quelle solution palliative proposez ?
La solution, tout le monde peut y avoir accès. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet domino. S'il y a des jeunes, aujourd'hui les jeunes que nous formons sont en train d'organiser des cafés citoyens, sont en train d'organiser des grains, sont en train d'organiser des séances de sensibilisation dans les lycées. Pour nous, c'est une goutte d'eau, hein, mais elle est importante. Nous sommes 22 millions de Maliens aujourd'hui. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de former les 22 millions de Maliens, encore moins la population de la zone AES, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui.
Il y a aussi d'autres moyens tels que les médias.
Il y a les médias, oui. qui sont parties prenantes. Il y a aussi les acteurs comme l'ASCOMA, les partis politiques, qui doivent prendre leurs responsabilités. Le mot clé pour moi est une question de responsabilité. Il est important, quel que soit... Les dirigeants sont d'abord des citoyens. Quel que soit le niveau auquel on est, il faut que chaque citoyen sache que c'est sa responsabilité de travailler au devenir commun, au futur, au destin commun. C'est en ça que je dis prendre en main le destin commun. Parce que si le dirigeant est dans sa tour d'ivoire, ou si le citoyen ne s'occupe que de son... Oui, quand les gens disent ça, nous avons faim, vous nous parlez de démocratie. Oui, mais... La démocratie garantit les libertés individuelles, vous permet d'aller chercher votre pain dans des conditions légales, garantit l'état de droit, qui fait que quelqu'un qui a plus d'argent que vous ne va pas vous exproprier Tout ça fait partie. Et il faut que le citoyen le comprenne, sache quels sont ses droits, quelle est sa responsabilité, et aussi puisse demander des comptes. En ça, les associations de consommateurs ont aussi un rôle important.
J'ai une préoccupation majeure. Juste deux minutes. Ce que le NIMD nous propose. Je fais partie de gens qui ont été formés à l'étranger, qui ont fait tous ces programmes, la majeure partie des programmes. Et j'ai envie de dire que les programmes, en fait, ne nous aident pas. Je dis aux jeunes ça tout le temps. En fait, le souci, c'est que ça crée une asymétrie entre nous. C'est qu'il y a le jeune qui a été hyper formé, qui doit discuter avec le jeune qui n'a pas eu accès au programme. Et ce qui fait qu'à un moment donné, il y a une contrebalance qui se crée dans notre structure. Ça fait 4 années que je suis en train de dire au ministère de la Jeunesse qu'il faut une loi qui définit comment ces programmes fonctionnent et surtout le contenu. Parce que si on a appris la démocratie, par exemple moi qui ai étudié aux États-Unis, si j'ai appris la démocratie purement américaine, elle n'est pas pareille qu'ici. Et les États-Unis sont à un niveau d'avancement que le Mali n'a pas atteint. Absolument. Donc si on applique les mêmes exigences, le Mali va s'écrouler.
Je suis absolument d'accord avec M. Doumbia
Je connais plein de gens qui ont participé au NIMD. Mais je pense aujourd'hui que nous, ici, nous avons suffisamment de capacités pour créer des programmes qui sont d'ici et que nos gens peuvent piloter.
Absolument.
Moi, j'ai une difficulté. J'avais le même conflit avec l'ambassade des États-Unis, d'ailleurs, qui, quand ils me demandent d'envoyer des jeunes qui vont faire le Yali, je dis non. Je dis, on n'envoie personne au Yali parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas la ressource humaine pour former la ressource humaine ici, c'est un souci. C'est la même chose qu'on dit aux autorités, qu'on ne veut plus de la bourse que la Russie nous envoie, qu'on veut former nos militaires ici, sur nos réalités. Et aujourd'hui, il faut pallier à cela. Il faut que la démocratie soit étudiée et comprise de notre méthode.
Absolument.
Parce que cette formation transversale va nous conduire à ce qu'il a décrit, à des textes qui ont été reproduits, à des idées qui viennent d'ailleurs, qui ne nous arrangent sur...
Non, j'invite Studio Tamani à venir dans nos salles, d'accord, parce que nos formateurs sont des formateurs maliens.
D'accord.
Nos formateurs forment dans les langues nationales et forment sur un système de valeurs qui est éminemment national.
D'accord.
Je vous invite à venir.
Nous allons donner la parole à Diakité rapidement pour qu'on passe à...
Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui.
Juste 30 secondes, quoi. En fait, ce que Doumbia est en train de dire là, lui-même, il ne sait pas qu'il est en train de faire en sorte que les communautés s'approprient de leur destin. C'est ça. J'ai connu... c'est un plaisir pour moi de te voir physiquement. J'ai vu un jour, quelqu'un m'a envoyé une de tes analyses. J'ai dit oui, nous avons besoin de jeunes comme ça. Je suis en train de voir ça. C'est-à-dire qu'il faut voir autrement. Donc pour moi, tes analyses là, peut faire en sorte que le Malien s'approprie de son destin. C'est ça, contrairement à ce que les autres pensent. Voilà.
D'accord. Nous allons passer à la question de Adama Djigiba, je pense, hein, qui... Alors, sa question, c'était, est-ce que les trois États peuvent-ils créer une monnaie, je pense. Peut-être que... Non, voilà,
qui d'entre vous voudrait... La monnaie, c'est Doumbia.
Donc, vous allez tous donner votre avis sur la question.
Déjà, j'invite souvent les gens, quand on parle de la monnaie de l'AES, à aller lire l'accord monétaire sur le franc malien. Trouvez-le, lisez-le. Cherchez réellement à comprendre pourquoi le franc malien n'a pas fonctionné. Ne vous limitez pas au simple fait qu'on a dit que non, la France est venue jeter des pièges. C'est beaucoup trop simple. Il faut chercher à savoir s'il y a eu même des pièges, quel type de piège, quel était le piège. Mais la dévaluation de cette monnaie a été éminemment rapide. Et on a fini par aller demander les mêmes garanties que le franc CFA a. Et aujourd'hui, on a certes de l'or sous sol, mais on n'a pas de l'or hors sol. Donc s'il faut garantir une monnaie et garantir sa stabilité, on n'a pas les instruments nécessaires tout de suite. On ne les a pas. Sauf si on arrive à faire quelque chose comme le dollar, qui ne repose sur rien du tout. Mais pour que le dollar atteigne ce niveau, il a fallu des États. Et donc, il va nous falloir les mêmes États.
Mais notre or, on l'exploite quand même, par exemple. Même si...
Bon, les mines industrielles au Mali sont toutes d'ordre étranger. Il n'y a pas de mines industrielles au Mali qui appartiennent au Mali. Bon, je ne sais pas pour les autres pays. Mais je pense que ça, c'est des choses qu'il faut... Et même les changements qu'il y a dans le secteur minier qui donnent de l'espoir ne sont pas encore nouveaux. Aujourd'hui, le président Hajimi a annoncé la création du Sonarem, je pense, et avec les 30%. Allez vérifier sous Moussa Traoré, il y a eu la SOREMA qui demandait les mêmes 30%. Rien de ceci n'est dû au hasard. Donc, s'il faut que j'explique, ça va être très long, mais cherchez ces choses, lisez-les, et vous allez vous rendre compte que c'est une tentative de répétition et que le système est conçu de telle sorte que c'est des passages qui vont se rétrécir de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance.
Mais vous n'avez pas répondu à la question, est-ce que ces trois pays peuvent vraiment créer la monnaie, oui ou non?
C'est ce que j'ai dit, tout de suite, on n'a pas le nécessaire.
Ok, donc, maintenant c'est...
Elles peuvent bien créer leur monnaie, mais tout de suite pas.
On n'a pas le nécessaire.
En fait, une monnaie doit être adossée sur l'économie. Okay. Contrairement au dollar qui était adossé à l'or, et à un moment bien déterminé, ils ont changé.
Ok.
Voilà.
Une autre question de
Sekou. Dépassionnons, quoi. C'est-à-dire qu'il faut dépassionner le débat. Demain, on ne peut pas créer une monnaie. Voilà.
Merci pour toutes ces précisions. On aborde la dernière question, je pense.
La dernière question, je pense, elle est de Kader, hein, qui demande pourquoi l'AES a été créée. Je pense qu'on l'a dit ici, mais peut-être qu'on peut revenir un peu sur ça. Madame Dalmeida.
Il y a plusieurs versions. Bon, si on lit les textes constitutifs de l'AES, hein, l'Alliance de l'Iptako-Gourma, c'est d'abord les questions de défense. C'est pour mettre ensemble les moyens de défense des trois pays pour lutter contre la menace terroriste. C'est le point de départ de l'AES. Puis, au fur et à mesure des réunions des experts, plusieurs aspirations ont vu le jour, hein, parce qu'on est d'accord que la réponse n'est pas le tout militaire. Donc si la réponse n'est pas le tout militaire, il faut donc penser aussi au développement. Donc si on pense au développement, les questions d'emploi, les questions d'agriculture, sécurité alimentaire, etc. arrivent. Donc je pense que c'est, comme je parlais d'effet domino tout à l'heure, c'est un peu cela, mais le point de départ est le besoin de ces pays de se mettre ensemble pour lutter contre cette menace sur leur survie, qu'est la question du terrorisme aujourd'hui, et donc, par extension, apporter également des réponses économiques à ce besoin-là.
C'est que je pense qu'on a épuisé le premier questionnaire. C'est possible, on va ouvrir une deuxième liste
bien
de cinq questions.
Bien sûr, mais c'est un sujet qui suscite vraiment beaucoup l'engouement de nos invités. Alors, cher public, est-ce que vous êtes satisfait de ces réponses? D'accord. J'espère que le temps nous permettra de prendre une autre série de questions. On y va?
Je suis Makan Fofana de l'Association des consommateurs du Mali. Je m'adresse particulièrement à M. Doumbia. D'abord, je le rectifie pour dire qu'en 92, Moussa Traoré était en prison. Bon, par rapport aux sanctions de la CEDEAO, je sais que nous avons assigné la CEDEAO devant les tribunaux africains et les tribunaux de la CEDEAO. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, que quelqu'un puisse dire que les sanctions de la CEDEAO n'ont pas commencé avec le Mali. Il dit qu'ils ont délogé, bien sûr, le président ivoirien, comme on a délogé aussi Samuel Lo. Mais la particularité ici, je crois que ça, c'est les sanctions économiques. Est-ce qu'il peut me dire réellement qu'il y a des textes de la CEDEAO qui autorisent cette sanction inhumaine? Ça, c'est mon premier constat. Le deuxième constat, lors du débat, ce qui m'a laissé un peu perplexe, c'est que j'ai l'impression qu'on confonde la CEDEAO et l'UMOA. Donc, je veux que vraiment qu'ils nous fassent la part des choses. Tous les pays de la CEDEAO ne font pas partie du France CFA. Donc, qu'on ne confonde pas la CEDEAO à l'UMOA. Là, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est les deux points que je voulais revenir, sur quoi je voulais revenir. Merci.
Qui d'autre pour poser une question?
Ok, je reviens encore une fois de plus.
Vous êtes
Adama Djigiba. Voilà. Ici, à ma première question, ils ont répondu que l'AES, en tout cas, ne sont pas en mesure de créer leur propre monnaie. Si c'est là hier, est-ce qu'aujourd'hui...
Tout de suite.
Oui, je parle de tout de suite également. Avec le Niger, le Burkina et le Mali, aujourd'hui, ma crainte, est-ce que si ces trois présidents qui sont en transition partaient que c'est les politiques qui venaient, est-ce que notre organisation que nous sommes en mesure de la créer, qui est l'Alliance, est-ce que cela ne va pas mourir dans les années à venir si jamais ces trois présidents-là quittaient le pays? Puisque, en général, les politiques se taisent, mais beaucoup ne sont pas d'accord avec cette organisation, si je ne me trompe pas. Merci.
Ma question est de savoir, est-ce qu'on peut créer une monnaie sous une ère de transition?
Si on peut créer une monnaie sous une transition, voilà.
Alors peut-être que nous allons commencer par la toute dernière, M. Koulibaly qui s'interroge si on peut créer une monnaie sous une transition. Alors, à qui la parole? Doumbia, Dalmeida, Diakité, peut-être Diakité.
On ne peut pas créer une monnaie sous la transition, parce que le processus de la création de la monnaie, là, c'est-à-dire quittons le monde des réseaux sociaux, quoi. Revenons sur le monde scientifique, le monde économique. C'est un processus. Franchement, ce n'est pas possible.
Voilà. Oui, mais pourquoi ce n'est pas possible? Est-ce que vous pouvez nous expliquer
non,
un peu?
Non, en fait, imaginez un peu. Une transition, d'abord, à mon entendement, c'est un régime d'exception. C'est un régime d'exception qui doit juste poser des jalons, pour, c'est-à-dire des jalons qui permettront au pouvoir qui sera élu démocratiquement, de prendre en compte les préoccupations majeures de la communauté. Pour moi, c'est ça seulement. C'est-à-dire, malheureusement, on a une autre lecture de la transition en ouvrant tous les chantiers et finalement, il y aura des blocages dans le futur, c'est sûr.
Mais quand une transition a été capable quand même de doter le pays d'une nouvelle constitution, ou bien ce n'est pas comparable, de Doumbia, par exemple?
La nouvelle constitution, moi je suis certain, en tout cas pour le cas du Mali, que le jour où un régime qui n'est pas un régime d'exception arrive, cette constitution va reculer. Ce n'est pas un acquis pour moi, parce que c'est moins de 30%, c'est 30% de gens qui ont voté. C'est la constitution précédente qui dit que si on n'a pas l'entièreté du territoire, on ne peut pas faire un référendum, on a forcé et on l'a fait. Il y a tellement de choses qui vont faire que cette constitution est contestable. La deuxième chose, c'est que, est-ce que juridiquement, ou même dans une réflexion simple, est-ce qu'on peut rentrer dans une nouvelle république pendant une transition? C'est quasiment fou. Mais ça, c'est des choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui.
D'accord, revenons à la monnaie, à la question de la monnaie, vos arguments qui justifient que ce n'est pas
aujourd'hui,
possible.
Aujourd'hui, concrètement, le Mali a de la peine à lever 20 milliards, 30 milliards sur le marché international. De France CFA. Le Mali n'arrive pas, passe des semaines à courir derrière 20 milliards, à courir derrière 30 milliards sur le marché de l'UEMOA et sur d'autres marchés. Et vous pensez qu'un pays comme ça va se lancer dans la création d'une monnaie et que ça va être opérationnel? Je pense qu'il y a énormément, beaucoup trop de contraintes.
Peut-être que c'est nous qui sommes sous-informés. Si le Mali a vraiment cette capacité, peut-il le faire ou bien des textes l'interdisent?
De créer une nouvelle monnaie?
Oui.
En tout cas, la création de la monnaie va nous sortir... dès qu'on a une autre monnaie que le franc CFA, nous allons devoir quitter la zone de coopération économique. Ça, c'est à effet immédiat. C'est ce qui s'est passé avec le franc malien. Mais une chose est sûre aujourd'hui, de ce que moi je sais du Mali, ce n'est pas le bon moment. On n'est pas en mesure de le faire, pas dans ce régime d'exception. Je ne pense pas que ce soit faisable. De ce que je sais, ce n'est pas faisable. Mais bon, les transitions, c'est des régimes d'exception qui font des choses exceptionnellement parfois. Donc, comme la nouvelle constitution, c'est une exception qui a été faite.
On va revenir un peu en arrière.
D'accord, nous passons.
Makamba, poser la question de savoir, le texte de la CEDEAO autorise-t-il des sanctions qu'a subi le Mali à l'époque?
Pas vraiment. Mais par contre, il y a une explication qui serait logique et qui fonctionnerait. En fait, quand la décision est prise de concert par les différents chefs d'État, c'est vrai que la décision est sortie dans le rapport final d'une réunion de la CEDEAO. Mais chaque État individuellement peut décider de fermer ses frontières. Donc si la décision est individuellement prise par les différents chefs d'État au nom de leur État, elle est vivable et justifiable légalement. Ça, c'est la partie qui compte. C'est vrai, il y a une nette différence entre lui et moi et la CEDEAO. La différence, c'est laquelle? La CEDEAO, c'est une organisation d'intégration communautaire. Et lui et moi, c'est une organisation d'intégration économique. Et effectivement, comme on l'a dit, on a parlé du Nigeria et du Ghana qui ont des difficultés avec leur monnaie actuellement, qui cherchent à avoir une zone monétaire commune avec la CEDEAO. Donc cela prouve à suffisance que la différence est faite, qu'il y a des États qui sont CEDEAO, mais qui ne sont pas forcément lui et moi. Mais sincèrement, est-ce que j'en voudrais à la CEDEAO? Non, quelqu'un a violé la loi ici d'abord. Moi, je réfléchis comme ça. S'il n'y avait pas eu coup d'État, il n'y aurait pas eu sanction. S'il n'y avait pas eu... Il y a eu le premier coup d'État, même la CEDEAO avait une position très compréhensive. Ils ont dit, nous allons accompagner le pays. Le Mali a suffisamment souffert. J'ai personnellement participé aux négociations avec Goodluck Jonathan. Donc, sur ça, je peux être clair. Mais lorsqu'il y a eu le second coup de force et que la CEDEAO a réagi, moi, je ne peux pas dire que si la CEDEAO est dans l'illégalité, que celui aussi qui a fait le coup d'État n'est pas dans l'illégalité. Si on combat quelqu'un qui pose une action illégale, on combat tous ceux qui ont posé l'action illégale. On ne peut pas avoir de... Entre deux injustes, on ne trouve pas la justice, quoi. Et moi, j'ai réfléchi comme ça. Donc, j'ai dit, bon, la CEDEAO, après avoir accepté qu'il y a un premier coup de force et travaillant vers une transition qui conduit à des élections, se voit en face d'un second coup de force. Mais même si c'est vous, vous allez maintenant essayer de répliquer avec de la force. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Mais très vite, ils sont revenus à la raison aussi. Ils ont réparé ça. Mais ce n'était même pas des sanctions aussi inhumaines que ça. Parce que les denrées alimentaires... Le Niger, je trouve qu'ils ont été sévères. Le Niger, ils ont été sévères. Mais le Mali, on parlait de frontières fermées, mais en même temps, on dit que les denrées alimentaires passent, les produits pharmaceutiques passent, les hydrocarbures passent. Si tout ça passe, qu'est-ce qui est vraiment fermé? La circulation des individus, peut-être.
Ok. Nous, d'accord, allons...
nous sommes...
Une minute, là, s'il vous plaît. Mm-hmm. C'est juste pour dire que ce que le camarade voulait savoir, effectivement, les sanctions, c'est à l'encontre des dirigeants, mais pas les peuples. C'est tout.
Et les dirigeants ont été malins de dire au peuple que c'est contre vous. Non, mais ce n'était pas ça.
Mais, en réalité, c'était contre les peuples.
D'accord.
Merci pour ces détails. Une question était posée après le départ de ces trois présidents qui est le Burkina, celui du Mali et celui du Niger. Est-ce que l'AES ne serait pas morte?
Moi, je crois. Je crois que c'est ce qui va se passer.
Elle est appelée à disparaître.
Oui, et je pense que les dirigeants de l'AES actuellement aussi vont se servir de ça pour vouloir rester plus longtemps. Je pense que d'ici fin février, on va entendre parler de cette histoire de durée de par les trois dirigeants de l'AES. Mais en même temps, on ne va pas être dans des transitions indéfiniment longues. Mais en tout cas, s'ils partent tout de suite, si demain il y a élection au Mali, je suis sûr que l'AS ne survivra pas aux élections.
Le temps qui nous est imparti tire doucement vers sa fin.
En fait, c'est selon ses propres analyses-là. Moi, je ne voudrais réellement pas que l'AS soit circonstanciel. À partir de vos analyses, la balle devrait être dans le côté des experts et de la société civile pour s'approprier et faire en sorte que l'AS ne dépende plus de ces dirigeants-là. Et qu'on évite également l'instrumentalisation de l'AES, que l'AES soit là pour satisfaire les besoins de la communauté. C'est le consommateur qui parle. Merci.
Personnellement, moi, j'ai envie de savoir pourquoi M. Doumbia pense que l'AES n'ira pas plus loin.
Vous savez, les gens, les dirigeants aussi, la politique, elle est complexe. Hein. Et les politiques ont souvent des réactions qui n'ont rien à voir avec ce qui est vécu, qui a tout à voir avec qui est en face de moi et qu'est-ce qui s'est passé entre nous. Donc, c'est une situation similaire que, encore une fois, nous répétons l'histoire. À la veille des indépendances, on avait un bloc composé de Ofwet Boigny, de Senghor d'un côté, et on avait un autre bloc qui était composé de Sékou Touré et aussi de Modibo Keïta. Donc quand vous étudiez aussi ces relations, beaucoup d'initiatives qui étaient nées de l'autre côté, dès qu'ils ont quitté le pouvoir, ont été abattues. Parce que c'est une idéologie qui est liée à l'AES aujourd'hui. L'AES, ce n'est pas simplement les objectifs que l'AES a mis sur papier. C'est cette idéologie de révolution qui est liée à l'AES. Et cette idéologie de révolution, les gens vont vouloir la tuer. Et vous savez que les gens vont vouloir la tuer.
D'accord, d'accord. Donc, puisque nous n'avons plus de temps, l'émission est arrivée à son terme. Peut-être que nous allons organiser un autre débat sur l'AES et Maryland.
Merci bien, Sekou. Je rappelle que nous avons eu comme invité sur ce plateau Cheikh Oumar Doumbia, analyste politique, Madame Célia D'Almeida, elle est journaliste, et
Abdul Wahab Diakité, le président de l'Association des consommateurs du Mali. Célia D'Almeida, elle est journaliste de formation, mais elle est représentante de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, NIMD, ici. Merci à nos invités, merci Rafika, merci cher public pour votre participation qui était de qualité à ce débat organisé ici sur le site du Festival Ogobanya. Toute cette semaine, Studio Tamani enregistrera ses débats ici sur le site du Festival Ogobanya qui est à sa 9e édition. Merci à toutes et à tous et on se retrouve pour d'autres émissions de coproduction entre les trois médias de la Fondation Hirondelle.
Il y a débat.